La fois dernière, j'avais évoqué un peu la nature de l'Holocauste, la nature de la victime à la Pâque. Et là, j'aimerais un peu continuer dans la même veine et faire quelques points sur la façon dont on sacrifie. J'aimerais pour cela prendre 1 Chronique, verset 21, un verset qui est, enfin, un passage qui est très connu. C'est l'épisode où Satan influence David pour que David fasse le dénombrement d'Israël et qu'il en éprouve de l'orgueil. 1 Chronique 21 commence par Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Soit dit en passant, ça nous enseigne quelque chose, c'est que même si Satan est celui qui nous inspire nos péchés, nous en sommes entièrement responsables lorsque nous avons commis le péché, et c'est ce qui s'est passé pour David. Nous pouvons toujours dire, oui, c'est pas ma faute, c'est Satan qui m'a fait pécher. Ça ne compte pas devant Dieu. Nous sommes responsables de la situation. Et lorsque David veut faire un sacrifice devant l'Éternel, il y a un épisode intéressant avec un homme qui s'appelle Ornan. Au verset 21, lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'aire pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je te donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Quelle générosité, n'est-ce pas? Je donne tout cela. Et la réponse de David est éloquente. Le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur, en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Donc, dans cette partie, il y a deux choses qui nous intéressent. Je n'offrirai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et la suite, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. On donne assez facilement les choses auxquelles nous ne tenons pas beaucoup, n'est-ce pas? On a des exemples assez frappants lorsque des gens envoient des dons aux missionnaires. Souvent, on les prend pour des poubelles plus qu'autre chose, n'est-ce pas? On a des exemples de gens de missionnaires qui ont reçu des vestes sans fermeture éclair, des pantalons sans boutons, enfin, des choses absolument insensées. Évidemment, ça coûte pas grand-chose, n'est-ce pas, que d'aller décharger ça dans une église qui va s'occuper de le distribuer sans vraiment regarder ce qu'on donne. On donne facilement les choses auxquelles on ne tient pas. En Angleterre, je me souviens d'une femme, Mavis, je crois qu'elle s'appelait, qui s'habillait systématiquement dans les second-hand shops, enfin dans les comment on dit, les charity shops, oui, là où on achète les vêtements d'occasion. Elle habille tous ses habits pour elle, elle les achetait là. Et tous les habits neufs qu'elle achetait, elle les envoyait aux missionnaires. C'est un retournement des valeurs, n'est-ce pas? Là, on peut dire que c'est un don. Vraiment. Et donc, facilement, on donne des choses auxquelles on ne tient pas beaucoup. Lorsqu'on est attaché à quelque chose, c'est plus dur. Lorsque ça nous a coûté, lorsque pièce par pièce, on a économisé pour obtenir la chose, c'est beaucoup plus dur de la donner, n'est-ce pas? Je crois qu'on a tous des exemples peut-être dans nos têtes où on se dit, le Seigneur me demande de donner ça, mais ça me coûte trop. Alors c'est sûr que si on regarde aux choses, on ne va pas les donner. Si on regarde au Seigneur, on va les donner. C'est une question d'orientation, du regard. Un enfant est difficile à donner. N'est-ce pas? Et pourtant, nous devons donner nos enfants au Seigneur. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Une mère s'attache à son enfant extrêmement tôt. Elle l'a dans son ventre, elle ne l'a pas encore vu. Elle a juste commencé à peut-être sentir un petit peu l'enfant bouger. Et aussitôt, l'attachement intervient et donner un enfant au Seigneur. On a l'impression que c'est rien. Mais donner l'enfant au Seigneur, c'est une vraie démarche. N'est-ce pas? Il y a des gens qui se sentent concernés. Et vous savez, Dieu a donné Jésus. Dieu a donné Jésus à son peuple, à Israël, depuis longtemps. Ça ne remonte pas à il y a 2000 ans. C'était bien avant. Tout le rituel sacrificiel, tout ce qui avait été mis en place, les sacrifices, les offrandes, tout cela nous parlait de Christ, était l'ombre des choses à venir, nous parlait de Christ. Et Dieu avait préparé son peuple de cette façon-là. Dieu voulait qu'au travers de ces choses, il y ait un attachement qui se crée à la sainteté de Dieu, à la divinité de Dieu, au cœur de Dieu. Et Christ était présent dans toutes ces choses, le tabernacle, dans tous les sacrifices qui étaient faits. La symbolique est énorme quand on se penche sur tout cet aspect dans le Lévitique. Et ce que Dieu voulait, c'est que finalement Christ soit l'idée de Christ, l'idée d'un Messie qui viendrait délivrer son peuple du péché, puisque c'est bien de cela dont il s'agit dans les sacrifices. L'idée d'un Messie qui viendrait de délivrer son peuple du péché était présente dans tout l'Ancien Testament. Et lorsque Jésus est venu, eh bien le peuple d'Israël était ravi. Les pharisiens étaient ravis. Enfin, celui qui va nous délivrer est arrivé. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Il est dit qu'il est venu chez les siens et ils ne l'ont point reçu. Mais c'était quand même ce que Dieu voulait. Il avait préparé la venue de Christ par les sacrifices et les holocaustes et les offrandes. Et ils ne l'ont point reçu. Et je crois que c'est le plus grand péché d'Israël, c'est d'avoir méprisé ce sacrifice ultime que Dieu avait préparé pour eux. C'était de regarder comme quantité négligeable cet homme, comme insignifiant cet homme que Jésus, qui était Jésus. Pourtant, c'était la chose la plus coûteuse que Dieu avait donnée. C'était la chose qui était la plus difficile à donner, ce que Dieu avait prévu pour Israël. Vous savez, Jésus a très rapidement compris qu'il n'était pas le bienvenu. Très rapidement, il s'est retrouvé en difficulté. Très rapidement, on a tenté de le mettre en défaut. Et il est dit, lorsqu'il avait fait des miracles et que les gens le suivaient, il est dit que Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qu'il y avait dans l'homme, parce qu'il les connaissait tous. N'est-ce pas ? Jésus savait qu'il n'était pas le bienvenu. Ils attendaient un Messie, qui était un Messie guerrier. Pourtant, ils avaient lu la parole. Ils avaient été capables de dire où serait son lieu de naissance. Il y avait plein de renseignements qui étaient disponibles et qu'ils avaient repérés. Mais lorsqu'il s'agissait d'accepter la venue de celui qui allait être sacrifié pour la rédemption des péchés, alors c'était plus possible. C'était pas ça qu'il nous fallait. C'était un homme de guerre. C'était quelqu'un qui soit capable de prendre les armes, de bouter les Romains dehors et de faire de nous une nation pure et sainte, sans mélange. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Je veux l'acheter contre sa valeur. Nous pouvons pointer du doigt le peuple d'Israël. Nous pouvons dire qu'ils ont mal agi. Et que finalement, tout ce que Dieu avait préparé pour eux, ils se sont assis dessus. Et que ce n'était pas bien de faire comme ça. Mais on peut aussi se demander si nous-mêmes, nous avons vraiment reçu ce Messie. On sait qu'Israël l'a refusé. Est-ce que nous-mêmes, nous avons reçu ce Messie ? Dieu veut un sacrifice qui nous est personnel, quelque chose qui vient de nous, de l'intérieur. Pas quelque chose qu'on est allé pêcher ailleurs, pas une doctrine qu'on a entendue quelque part, pas quelque chose qu'on a lu dans des livres, même pas dans la Bible. Dieu veut un sacrifice qui vient de nous-mêmes, quelque chose qui nous appartient. Et on a l'impression, parfois, que ce qui nous appartient, ce sont les plus grandes choses. Ce sont notre maison, je l'ai dit, nos enfants. Mais la Bible nous donne une indication sur ce qui est vraiment précieux aux yeux de Dieu. Et ça, on le trouve dans la prière de David, lorsqu'il est sur le point de mourir. On le trouve à d'autres endroits dans la parole aussi. Dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 14. 13. « Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi. » Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. ce qui est précieux aux yeux de Dieu. C'est ce que lui-même nous a donné. Nous recevons, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Il y a un échange. Nous recevons de Dieu et nous donnons à Dieu. C'est la seule façon de donner valablement à notre Dieu. C'est la seule façon de recevoir valablement. Et, n'est-ce pas, dans l'apôtre Paul nous le dit, l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous indique ce que Dieu agrée comme sacrifice. De venir à l'église le dimanche, on le dit souvent, ce n'est pas ça un sacrifice valable. D'aller aux réunions, ce n'est pas ça un sacrifice valable. De donner la dîme, ce n'est pas ça un sacrifice valable. Tout ça a son importance. Je ne dis pas le contraire. Bien au contraire, ça montre notre attachement à Dieu. Mais ce ne sont pas ces choses-là en elles-mêmes qui nous rendent agréables aux yeux de Dieu. Ce qui nous rend agréables aux yeux de Dieu, c'est lorsque, ayant reçu de lui, nous pouvons lui restituer, lui redonner ce qu'il nous a donné. Dans les sacrifices, il y avait ce qu'on appelait la libation. C'était un liquide qu'on mélangeait à la fleur de farine, la fleur de farine qui représente la pureté, et on mélangeait du vin, ou je crois de l'huile, des fruits aussi à cela, et on le répandait autour de l'autel. Et ça, c'était la part que l'homme pouvait donner. C'était la part de l'homme. Mais elle était très intimement liée à l'Holocauste. C'est-à-dire que c'était la petite part qui était laissée à l'homme et qui avait été purifiée avec le reste. Et ça, ça pouvait accompagner l'Holocauste. Ça, je ne sais pas de venir avec toutes ces affaires à soi et de les mettre sur l'autel et dire « Voilà, tout ça, je te le donne. Dieu n'en a que faire. Tout lui appartient. » N'est-ce pas? Tout appartient à Dieu. Ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est un échange, c'est une relation effectuée dans la foi en Dieu et dans l'espérance en Dieu. Nous devons apporter des offrandes qui ont un coût, qui ont une valeur. Il s'agissait de ramener en fonction de ses moyens à l'époque. C'est-à-dire, si j'étais à l'aise financièrement, j'apportais un taureau. Si j'étais un peu moins riche, j'apportais des brebis ou une brebis. Si j'étais encore moins riche, comme c'était le cas des parents de Jésus, j'apportais des oiseaux, des pigeons. Le drame, c'est que nos holocaustes, les holocaustes, parfois sont déséquilibrés. Dans Malachie au chapitre 1, on dit « Mais Dieu se met en colère. » À plusieurs reprises, dans Ésaïe aussi. Et les sacrifices ne sont plus d'une bonne odeur aux yeux de Dieu, aux narines divines. Parce que des gens amènent des animaux qui sont boiteux. N'est-ce pas? Au lieu d'importer, comme on l'a vu la fois dernière, un animal en bonne santé, vigoureux, pur, sans tache, eh bien certains se défaisaient de leurs animaux qui étaient en mauvais état. Et ils apportaient des animaux boiteux, des animaux blessés peut-être, aveugles. Et ça, à plusieurs reprises, Dieu s'est mis en colère parce que ces sacrifices-là n'avaient plus rien à voir avec ce qu'il voulait. C'est-à-dire que ça vienne d'un cœur pur, qui s'attache à rechercher Dieu, qui s'attache à rechercher la reconnaissance de son Dieu. Ces sacrifices étaient mauvais. Il y avait ceux qui voulaient économiser. Et au lieu d'apporter un taureau, parce qu'ils en avaient les moyens, ils apportaient seulement une brebis. Ou ils apportaient seulement des oiseaux. Et ça, frères et sœurs, ça nous parle de nous-mêmes et de ce que nous apportons à Dieu jour après jour dans notre méditation quotidienne personnelle. Mais aussi, ça nous apprend de ce que nous apportons à Dieu lorsque nous venons dans le culte public et que nous nous adressons à lui. Avec quoi est-ce que nous venons le dimanche matin? Avec quoi est-ce que nous venons le lundi matin, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi? Est-ce que nous venons avec des animaux boiteux? Ou est-ce que nous venons à l'économie devant le trône de Dieu? Ou à l'inverse, est-ce que simplement capable d'apporter des oiseaux, nous tentons d'apporter des taureaux? Vous voyez comment ça nous parle, ces choses? Quel est le sérieux de notre action vis-à-vis de Dieu dans ce domaine? Ces choses-là sont de première importance. Est-ce que nous venons à vide, sans rien à l'intérieur, incapables de donner quoi que ce soit à notre Dieu? Ah, mais Dieu, il n'a pas besoin de moi, il a tout. Je l'ai dit. Dieu possède tout. Mais à partir du moment où il a mis quelque chose en vous et en moi, de quel droit est-ce que je néglige ce don? Comment est-ce que je peux imaginer que Dieu m'écoute, même un instant, alors que je néglige les choses qu'il m'a données? Il n'y a rien de plus dangereux pour un croyant que d'être vide. Jésus nous parle dans Matthieu de cette personne qui a été délivrée, n'est-ce pas? Et le ménage a été fait à l'intérieur. Et il est vide. Et les démons qui sont partis parce qu'ils ont besoin d'une habitation. Les démons ont besoin d'une habitation, frères et sœurs. Les démons ne restent pas dans la nature. Ils ont un besoin de se fixer quelque part. Et lorsque un démon rencontre sur sa route, et surtout lorsque c'est un démon qui nous connaît, eh bien, et qu'il voit que la maison dans laquelle il a été chassé est vide, alors il revient en force. Et parce qu'il connaît les lieux, il se réinstalle, il réinvestit la place. Et la condition de la personne est pire que ce qu'elle était auparavant. Frères et sœurs, si nous ne remplissons pas nos cœurs avec ce que Dieu nous donne, jour après jour, année après année, dimanche après dimanche. Et si désespérément nous restons vides, Alors, il y a une entrée possible pour le malin. Et il va s'installer. Et notre situation spirituelle sera dramatique. Oh, je ne dis pas que nous ne serons plus sauvés. Ce n'est pas de ça que je parle. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester vides et incapables d'offrir à Dieu quoi que ce soit. Si nous savons que jour après jour, c'est difficile de recevoir de Dieu, eh bien c'est parce que nous négligeons une chose, c'est l'investissement personnel qui est nécessaire pour se rapprocher de Dieu. On est sauvé par la grâce, mais nos avancées, nos victoires, la victoire sur la maladie même, la victoire sur les puissances démoniaques, elle se fait sur notre initiative. N'est-ce pas? David a été tenté par Satan et il a péché. Et il a été rétabli sur son initiative. Il a rétabli la situation. Si nous, nous voulons la victoire au quotidien, c'est sur notre initiative que Dieu va la donner. Comme Paul l'a dit aux enfants tout à l'heure, la Bible est un miroir. Mais ce n'est pas la Bible qui nous nettoie. La Bible nous fait voir ce qu'on est. Mais ce n'est pas en lisant qu'on va être nettoyé. C'est en agissant. En allant devant le trône de la grâce. En demandant à Dieu. En nous mettant dans des situations où nous serons confrontés à la parole. En recherchant à ce que le Seigneur nous parle de tout, parle à notre cœur. Les gens qui avaient vraiment besoin de Jésus pour la guérison, pour la délivrance, moi je vous dis que Jésus les a tous rencontrés. On le dit, Jésus n'a pas guéri tout le monde, et c'est vrai, c'est clair. Mais tous ceux qui voulaient que Jésus s'arrête pour les guérir, pour les prendre en compte, ils ont fait en sorte de se retrouver face à Jésus. Ils se sont mis en travers de son chemin. Et frères et sœurs, aujourd'hui même, le Seigneur n'attend pas autre chose de nous que nous nous mettions en travers de son chemin, que nous l'arrêtions. Que nous lui tirions son manteau, que nous le touchions, afin que lui puisse nous toucher. On ne peut pas espérer quoi que ce soit de Dieu si on néglige le don qu'il nous a fait. On ne peut pas espérer une guérison de Dieu si on laisse partir Jésus là-bas et que nous nous disons, ben voilà, il est encore passé, loin de moi. Fils de David. Et ils se sont mis en travers de sa route. Dans Exode chapitre 23, verset 15, il est dit, « On ne viendra pas à vide devant ma face. » Et dans Deutéronome 26, au verset 2, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. On ne vient pas à vide devant l'Éternel. Et l'Éternel nous donne les moyens de remplir nos corbeilles. Tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille. Et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, a choisi pour y faire résider son nom. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons les moyens d'être remplis. Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier. Le pays promis, il fallait y être pour donner les prémices à Dieu. C'était pas comme la Pâque, c'était pas comme les offrandes. On pouvait les faire dans le désert. Mais les prémices, il fallait être dans le pays. Il fallait avoir franchi le Jourdain. Et la première moisson, la première gerbe, c'est cela qui appartient à Dieu. Et il prenait la gerbe et il la faisait tournoyer en l'air pour montrer à tous, et y compris aux puissances démoniaques, parce qu'en montrant cela, c'était Jésus qu'on montrait, Jésus qui allait monter vers le Père. En tournant ça de tous ses côtés, on avait cette vision de Jésus qui part. Les prémices, c'est lui. C'est notre Seigneur. Et tu prendras des prémices. Tu prendras de lui, de Jésus-Christ lui-même. Et tu le mettras dans ta corbeille. Parce que c'est ça la véritable richesse. C'est ça le véritable sacrifice. C'est ça le véritable holocauste. C'est ça véritablement ce qu'on peut donner à Dieu. Ils me feront un sanctuaire et je serai au milieu d'eux. Est-ce que Dieu est présent au milieu de nous, ici, dans cette salle, mais chacun aussi à titre individuel? Est-ce que Dieu a un sanctuaire? Est-ce que nous pouvons venir avec nos corbeilles remplies et lui les apporter? Est-ce que nous réjouissons le cœur de Dieu? Est-ce que nos offrandes lui sont agréables? Jésus veut que nos paniers soient remplis. Et que, ainsi, nous soyons de bonne odeur à l'Éternel. Que ce qui exhale de nous soit de bonne odeur à l'Éternel. Est-ce que c'est ça notre condition aujourd'hui? Est-ce que nous sommes remplis? Est-ce que notre panier est percé? Est-ce que nous sommes obligés de nous forcer pour venir, nous forcer pour lire, étudier la parole? Est-ce que nous avons reçu de quoi donner des oiseaux, de quoi donner des brebis, de quoi donner des taureaux? Et est-ce que nous donnons en fonction de ce que nous avons reçu? Je vous laisse avec ces questions et je propose qu'on prie pendant 5 minutes et que chacun puisse se mettre devant Dieu et peut-être demander pardon. Parce que Dieu a beaucoup fait. Dieu a beaucoup donné. Est-ce que nous avons reçu? Et si nous avons reçu, comment est-ce que nous lui donnons? Quelle est notre relation? Quel est l'échange? Voilà, je propose qu'on fasse ça pendant 5 minutes. Et que le Seigneur vous garde.